Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Après la conclusion d'un cessez-le-feu sous l'égide des Nations Unies à Genève, les différentes parties au conflit en Libye sont à Tunis pour négocier des avancées politiques. Tout cela sous l'œil des puissances étrangères qui se sont invitées, comme la Turquie, la Russie ou les Émirats Arabes Unis. Quant à la population libyenne, elle manifeste régulièrement pour obtenir de meilleures conditions matérielles de vie quotidienne. Nous en parlons avec Jalel Archaoui, chercheur spécialiste de la Libye. À suivre, la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Jalel Archaoui.
Bonjour Éric Bataillon.
Chercheur à l'Institut des Relations Internationales de Klingendaal, à La Haye, aux Pays-Bas. Vous suivez de près l'évolution de la situation en Libye, qui est l'objet de votre recherche. Jalel Archaoui, par rapport au mois de mars, qui avait vu la démission du représentant des Nations Unies, Hassan Salamé, la situation aujourd'hui s'est-elle décantée sur le plan politique ?
Oui, il y avait une bataille vraiment violente qui devait se faire, puisque au moment de la démission de Hassan Salamé, la Turquie était déjà arrivée en Tripolitaine. Elle était déjà en train de préparer une véritable contre-offensive qui n'était pas encore réalisée à l'époque. Donc lui, il était parti parce qu'il était déjà resté assez longtemps en tant qu'envoyé spécial. Mais cette fameuse humiliation par la force du maréchal Haftar n'avait pas encore été faite. Et elle a été réalisée entre justement le mois de mars et le mois de juin. Le 5 juin, les brigades du maréchal Haftar ont été expulsées de force par les brigades de Tripoli, soutenues par la Turquie. D'ailleurs, les mercenaires russes avaient lâché le maréchal Haftar 2 semaines auparavant. Et à partir de là, il y a une espèce d'entente qui s'est instaurée entre Ankara et Moscou, qu'on présente parfois à tort comme des ennemis mortels. Ce ne sont pas des ennemis, mais ce ne sont pas non plus des alliés. C'est quelque part entre les deux, ce sont des gens qui parlent entre eux, même s'ils sont souvent de part et d'autre des divers conflits dans la région. Donc on assiste à une espèce de tassement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échange de tirs, il n'y a plus de front intense ou actif. Il y a une espèce de ligne Maginot qui s'est tracé depuis le mois de juin, et qui pour l'instant est respecté aussi bien par, pas par tout le monde, mais en tout cas par les Turcs et par les Russes. Il reste encore le maréchal Haftar qui aimerait bien, pour pouvoir redorer son blason politique, revenir vers une logique de guerre, mais faire cela sans l'approbation des Russes, c'est difficile. Donc c'est un petit peu ça l'ardoise de travail de l'ONU. Elle profite, et elle a raison, elle profite de ce calme, de l'absence d'une guerre intense comme on a pu en avoir pendant la première moitié de l'année 2020, et sur cette base, essaie de construire une structure politique qui serait acceptée par l'ensemble de la Libye. Et c'est un petit peu l'objet des pourparlers de Tunis. La première semaine s'était conclue sans véritable aboutissement ou accomplissement tangible, mais l'ONU a pu finalement reprendre son processus de paix lundi, sans changement véritable de direction, dans le sens où les espoirs sont les mêmes, mais ce sont des espoirs qui sont relativement réalistes. Pouvoir instaurer un nouveau conseil présidentiel en mettant à sa tête une figure de l'Est, mais qui ne soit pas le maréchal Haftar. Les Russes ne veulent pas du maréchal Haftar, les Égyptiens ne veulent pas du maréchal Haftar. Les seuls qui tiennent encore au maréchal Haftar, ce sont les Émiratis. Et évidemment, quand on dit les Émiratis, ça sous-entend évidemment la France derrière.
Alors, Jalel Archaoui, le fait que l'on ait appelé pour cette réunion de Tunis 75 personnes autour de la table qui représentent autant de factions politiques, n'était-ce pas trop ? Était-ce vraiment une bonne idée ?
Non, mais il n'y a pas de bonnes idées dans ce contexte-là. Ce qu'essaye de faire l'ONU, c'est d'instaurer une structure qui, dans son principe, est acceptée et embrayée par la suite sur des élections. Alors, à partir du moment où on exige que le comité qui fixe la structure, en sachant que les élections sont quand même prévues pour décembre 2021, on exige aussi des élections pour le comité qui doit mettre en place la structure qui précède les élections, on tourne en rond. Et c'est ce qu'essaie d'éviter l'ONU, c'est compréhensible. Évidemment, le format des 75 est remis en cause par des gens des deux côtés du conflit libyen. On pourrait rentrer dans ces dissertations et ces débats, mais je pense que, de toute façon, vous savez, les décisions sur le fond ne sont pas prises à Tunis. Elles sont prises à Ankara, sont prises à Washington, sont prises à Moscou, bien entendu, et au Caire. Donc c'est vraiment à l'extérieur. Parce que si on fait confiance aux Libyens, on ne va pas s'en sortir.
Et en quoi la rencontre du comité militaire conjoint à Sirte à la mi-novembre est-elle importante? Il serait question d'une démilitarisation de la ville. Y croyez-vous?
C'est mi-figue, mi-raisin. Parce qu'il y a un côté positif. C'est le fait que effectivement, il y a des pourparlers maintenant qui ont lieu sur le sol libyen. Ça, c'est une avancée que je trouve extraordinaire sur le plan symbolique. C'est quelque chose qu'il faut applaudir, qu'il faut encourager. Maintenant, quand on parle de démilitarisation de la ville de Sirte, il ne faut pas prendre ça au mot. La présence russe ne va pas diminuer. La présence soudanaise ne va pas diminuer. La présence syrienne ne va pas diminuer. Je parle du côté du maréchal Haftar. Pareil de l'autre côté. Les Syriens, pro-turcs, il y a encore à peu près 3 000 de ces mercenaires en Tripolitaine. Ils n'ont absolument aucune intention de partir dans les semaines qui viennent. Donc voilà, quand on dit démilitarisation, c'est un peu une recherche de gestes symboliques. Ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre d'une manière littérale.
Et cette question des mercenaires étrangers, c'est une question importante, voire fondamentale dans la résolution de ce conflit, pour vous?
Je ne pense pas. Je pense que pour moi, c'est un fait de la vie. Ce ne sont pas des présences étrangères qui vont s'estomper avec le temps. C'est le chaos international dans lequel on vit dans cette région. Et je pense qu'il faut être réaliste. Est-ce que les mercenaires étrangers sont le principal moteur de la guerre? Je ne pense pas, personnellement. Je pense que c'est une catastrophe. C'est très triste d'avoir ça, d'avoir cette présence étrangère aussi diverse et aussi multifacette qui s'impose comme ça, quelle que soit l'approbation ou la désapprobation des Libyens. Mais je ne pense pas que ce soit le moteur de la guerre. Le moteur de la guerre, c'est de ne pas trouver un accord entre les Libyens qui ont la possibilité de lancer des attaques. C'est de ne pas trouver des accords sur le partage des recettes du pétrole, c'est de ne pas trouver un équilibre territorial. C'est vraiment ce genre de problématiques qui ont conduit à autant de destructions dans le passé. En tant que tel, les mercenaires, c'est quelque chose de laid, mais ce n'est pas non plus le moteur. Le moteur, ce sont les gens qui paient ces mercenaires. Et parfois, ce sont les Libyens, et parfois, ce sont des États comme les Émirats, par exemple, qui n'ont pas de grosse présence militaire. Ils comptent sur d'autres nationalités pour faire la guerre pour eux.
Vous voulez dire que cette guerre civile est surtout alimentée par les ingérences étrangères?
Elle est surtout, mais pas entièrement, pas entièrement. Il ne faut pas simplifier, mais c'est vrai qu'elle aurait duré beaucoup moins longtemps s'il n'y avait pas eu ces injections d'armement, des injections de personnel, des injections d'argent. C'est sûr qu'elle aurait duré non pas une décennie, mais sans doute juste 3 ou 4 ans. Donc il y a une dimension qui est totalement imputable, évidemment, à l'impunité internationale.
Des manifestations populaires ont eu lieu en septembre et en octobre dans les grandes villes du pays, à Tripoli, à Benghazi, à Misrata. Les protestataires réclamaient de meilleures conditions de vie et le départ des dirigeants en place. Que penser de ces manifestations qui ont l'air d'être sur toutes les grandes villes du pays?
Elles sont authentiques, vous avez raison de dire qu'elles sont réparties dans l'ensemble du pays, donc elles ne sont pas soumises aux différentes factions. Elles ignorent un petit peu les grandes fractures classiques sur le plan politique, et elles ont des griefs qu'il faut respecter. Ce sont des griefs d'ordre socio-économique. À l'époque, ce qui avait véritablement provoqué comme ça, ce qu'on avait vu à la fin août, début septembre, c'était les grandes pannes d'électricité qui se sont un petit peu amenuisées depuis parce que le temps est devenu plus clément, parce que certains problèmes techniques au niveau de l'approvisionnement en carburant et gaz naturel ont été résolus. Mais le mécontentement reste le même, mais c'est un mécontentement qui est mal organisé politiquement et c'est un mécontentement de gens qui sont fondamentalement fatigués. Donc il ne faut pas croire qu'on est en train d'assister à un printemps arabe 2.0.
Mais n'est-ce pas un terreau favorable malgré tout, qui pourrait profiter à la confrérie des frères musulmans qui est en embuscade pour s'emparer du pouvoir comme elle a tenté de le faire la première semaine à Tunis?
Moi, je résiste à ce genre d'interprétation. Je considère que les frères musulmans, qui, je vous le rappelle, n'ont jamais été réellement très populaires en Libye, ils ont juste été catapultés dans des positions de pouvoir juste après 2011. Ils n'ont pas la popularité, ils n'ont pas la légitimité pour vraiment s'emparer du pouvoir. Ils s'imposent pour l'instant en s'accrochant tant bien que mal à certains postes technocratiques, mais ils sont pas en position de force. Ils sont pas en position de force et je pense vraiment pas que ce soit une grande menace. Et aujourd'hui, finalement, ils sont assujettis à ce que va pouvoir faire la Turquie. Et même la Turquie elle-même, vous savez, elle a une manifestation militaire très importante, très redoutable, mais elle ne parvient toujours pas à trouver la dynamique qui lui permette de convertir cela en hégémonie politique ou économique. Elle n'y arrive pas. Elle ne sait faire que la guerre, la Turquie, pour l'instant. Il lui reste de faire ses preuves sur les domaines soft, comme la légitimité socio-économique et l'influence politique. Donc, et c'est pas les frères musulmans qui vont lui permettre de résoudre ce problème. Ils sont encore plus faibles qu'elle.
Alors, malgré tout, faute d'avancée, le président du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, bien que démissionnaire, annonce que finalement il va rester, enfin en tout cas il va prolonger son mandat. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou alors est-ce que c'est un élément de plus dans la cacophonie politique?
Personnellement, je ne l'ai jamais cru quand il a parlé d'annoncer une prédémission à plusieurs semaines d'avance. Faut se méfier, vous savez, c'est une vieille ficelle qui est employée souvent par les politiciens libyens. C'est simplement une façon pour eux de rappeler à quel point ils sont précieux et à quel point ils pourraient être comme ça capricieux et renforcer leur propre pouvoir. Je ne pense pas que ce soit une figure guerrière. C'est un personnage qui est sans doute moins innocent que ce qu'il y paraît. Mais c'est pas un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait aligné avec la Turquie, loin s'en faut. Et le fait qu'il reste, finalement, ce n'est pas une source de conflit à l'échelle nationale, en tout cas, même si c'est une figure controversée à Tripoli. Personnellement, je pense qu'il va trouver un moyen de rester, en tout cas en tant que figure symbolique, et ça lui suffit. Et je pense qu'il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, je pense plus, encore une fois, au partage, de la manne pétrolière. Problème de reconstruction économique, pouvoir faire face à la pandémie qui est très très grave aujourd'hui en Libye et résoudre cette question de la présence militaire des Russes, des Émiratis et surtout évidemment des Turcs à l'ouest.
Vous restez optimiste pour la suite des événements d'ici à la fin de l'année prochaine?
Je pense qu'il va y avoir un conflit encore. Je pense qu'il va y avoir une reprise des violences parce que ce partage dont je vous parlais tout à l'heure n'a pas été entièrement clarifié sur l'ensemble du territoire. La division Est-Ouest a été plus ou moins affirmée, mais il reste encore la question du Sud-Ouest. Et encore une fois, je pense que la Turquie risque de profiter du caractère belliqueux du maréchal Haftar, qui conserve encore une force sur le terrain, notamment au Sud-Ouest, qui pourrait profiter de certaines bêtises qu'ils sont absolument décidés à faire pour reprendre la guerre et essayer de prendre un peu plus de territoire qui tomberait sous l'égide du côté pro-turc. Donc voilà, encore une fois, quand on prend comme prisme le problème économique, on se rend compte qu'on est encore loin d'être sorti de l'auberge. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on va retourner à une guerre aussi intense que ce que nous avons eu pendant la première moitié de 2020.
Merci, Jalel Archaoui.
Merci, Éric Bataillon.
Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des Relations internationales de Klingendal, à La Haye, aux Pays-Bas, et que vous êtes un spécialiste de la situation en Libye. Lisons maintenant la presse régionale avec Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
L'événement de la semaine, Michel Paul, c'est la rencontre secrète de Noum en Arabie Saoudite. Netanyahou, accompagné du chef du Mossad, qui s'entretient avec Mohamed Ben Salman et Mike Pompeo, le secrétaire d'État sortant des États-Unis.
Et c'est la rencontre des orphelins de Trump, proclame d'emblée Yedioth Ahronoth. La rencontre était importante, les fuites à la presse superflues, estime pour sa part un autre chroniqueur dans le même journal. Visiblement, quelqu'un en Israël n'a pas respecté les promesses faites aux Saoudiens. Pour Smadar Perry, la très respectée commentatrice du Monde arabe, l'important, c'est le message que MBS a voulu faire passer. Il s'adresse clairement aux Américains, aux Iraniens, aux Palestiniens et aussi à la vieille génération en Arabie Saoudite même. Il s'agit de mettre en avant l'alliance tacite avec Israël. Dans Ma'ariv, un article qui décline en trois temps le voyage éclair du Premier ministre israélien dans la ville balnéaire saoudienne, la rencontre elle-même, les fuites à la presse et le démenti saoudien. Qui faut-il croire? Demande le quotidien. De son côté, Haaretz tente de minimiser la portée de la rencontre secrète, un titre discret. Le journal souligne que Saoudiens et Israéliens ne sont arrivés à aucun accord, mais que de nouvelles transactions d'armement sont probablement à l'étude.
Alexandre, Israël, mais aussi la Palestine occupe également cette semaine une large place dans la presse arabe.
Oui, et c'est le premier vol commercial
Dubaï-Tel Aviv qui arrive en tête. Alors un vol low cost de la compagnie Fly Dubai, puisque selon les journaux, on pouvait acheter un billet de classe éco aux alentours de 300 euros. Le vol où les hommes d'affaires prédominaient inaugure des liaisons fréquentes, pas moins de 28 vols Dubaï-Tel Aviv et vice-versa. Il faut rajouter, précisent les journaux, des vols cargo et des charters, ainsi que des liaisons avec le port d'Eilat sur la mer Rouge. Au même moment, ce sont des articles anti-normalisation que l'on peut lire dans la presse égyptienne, alors que le Caire est le premier pays à avoir signé la paix avec Israël et inauguré des vols commerciaux qui se poursuivent, mais à un rythme moins fréquent. Nombreux sont aussi les articles et commentaires célébrant la libération par Israël du Palestinien Maher el-Akhras après une grève de la faim de 103 jours. L'occasion pour des éditorialistes de dénoncer les détentions administratives israéliennes qui ont lieu sans nul besoin de justification juridique. Il y a enfin le décès de Maradona et au-delà du côté footballistique, des journaux indiquent que le cœur de la star argentine et mondiale était pro-palestinien.
Autre information largement partagée par vos journaux, Alexandre, le décès d'Al-Sadiq al-Mahdi au Soudan.
Oui, à 85 ans, Sadiq al-Mahdi, tué par le coronavirus, jouait toujours un rôle important dans le paysage politique soudanais, où certains le considéraient comme le sage des sages. Celui qui avait été deux fois chef du gouvernement à la suite d'élections démocratiques, puis renversé par les militaires, avait joué le rôle d'éternel opposant aux juntes nationalistes puis islamistes. Son parti Al-Umma était la plus grande formation politique du pays. Son remplacement à la tête du parti sera très difficile, car Al-Mahdi était un politicien, mais aussi le descendant des héros nationaux soudanais, Mohamed El-Mahdi, qui s'était révolté contre l'occupation égypto-anglaise à la fin du 19e siècle et décrété la première indépendance du Soudan.
Israël et la politique, Michel, il est question de sondages, d'élections, de pots de vin et de sous-marins.
À l'horizon tout proche de nouvelles élections, donc, nouveaux sondages dans Mariv en cette fin de semaine. Il montre que le Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou, arrive à creuser l'écart avec les autres formations. Le sondage montre qu'en cas de nouvelles consultations, il sera le seul à pouvoir former une coalition qui tienne la route. Israël Ayom révèle l'existence d'une équipe secrète chargée de repousser autant que possible ces élections. L'objectif est de gagner du temps, titre le journal proche du pouvoir en Israël. Eric, un des éléments les plus curieux dans la presse israélienne ces derniers jours, ce sont les informations sur le rapprochement de Mansour Abbas, de la liste arabe unifiée, un des leaders du mouvement islamique en Israël, avec Netanyahou. Et cela pourrait changer la donne en cas d'élection. À la une aussi, l'affaire des sous-marins achetés par Israël à l'Allemagne. Benny Gantz a décidé de l'ouverture d'une enquête sur cette acquisition, mais les responsables politiques, notamment le Premier ministre, ne pourront pas être entendus par cette commission. Enquêter en profondeur sur l'affaire des sous-marins réclament quatre directeurs généraux de ministères. À la une de Yedioth Aharon.
Alexandre, la presse pointe le lancement d'une campagne contre l'émigration clandestine.
Oui, une campagne lancée sous l'égide du ministère égyptien de l'émigration. Alors, près de 10 millions d'émigrés égyptiens vivent de manière temporaire dans les pays du Golfe ou permanente dans les Amériques, l'Europe et l'Australie. Ils rapatrient chaque année une trentaine de milliards de dollars. Mais il y a aussi des candidats à l'émigration illégale vers le sud de l'Europe. Un phénomène qui avait été jugulé, mais qui pourrait reprendre du fait de la crise post-coronavirus.
Et vos photos, Michel, très humides, semble-t-il.
Ce sont des photos d'inondations un peu partout en Israël. C'est le mois de novembre le plus pluvieux depuis 26 ans, ont remarqué les spécialistes, et ils expliquent que le phénomène est dû au réchauffement climatique.
C'est une évidence. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr. Demain, l'écrivain et journaliste Olivier Weber viendra nous parler du Kurdistan, où il est retourné récemment après de nombreux reportages dans le passé. Il en a tiré un livre, « Si je t'oublie Kurdistan », publié aux éditions de l'Aube. À demain donc. Musique du monde.